vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Alors finalement, responsable quand même.
Responsable, mais pas coupable.
Pour le comprendre, il faut faire un assez long voyage dans le temps. En 1853, la France colonise l'île qu'elle appellera la Nouvelle-Calédonie. Les autochtones qui ne sont pas massacrés lorsqu'ils osent se révolter contre cette invasion sont décimés par les maladies transmises par les colons. Les Kanaks, qui étaient près de 50 000 lorsque les Français ont débarqué, sont moitié moins nombreux un demi-siècle plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, la France signe et ratifie la Charte des Nations Unies, dont l'article 1er stipule notamment que l'un des buts de cette organisation nouvellement créée est de développer entre les nations, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Mais bien sûr, ce magnifique principe ne vaut pas pour les peuples colonisés par la République française, qui continuent d'apprendre aux jeunes descendants des Kanaks ayant échappé au massacre du siècle précédent à chanter la Marseillaise et à réciter que leurs ancêtres étaient gaulois.
À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois.
Dans les années 1960, pendant que les Français, toujours plus nombreux à s'installer sur l'île, s'enrichissent comme jamais dans l'exploitation du nickel, les Kanaks, avec lesquels il n'est bien sûr pas question de partager ce gigantesque pactole, deviennent minoritaires dans leur propre pays. En 1984, emmenés par le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, ils se soulèvent massivement contre le sort infâme qui leur est fait. Les événements, comme disent pudiquement le gouvernement français et ses journalistes d'accompagnement, à qui cette locution avait déjà servi quelques décennies plus tôt à ne pas nommer la guerre d'Algérie, vont durer 4 ans. La répression policière et militaire est d'une férocité sans nom. En 1985, l'un des principaux chefs indépendantistes, Éloi Machoro, est exécuté par les gendarmes du GIGN et l'état d'urgence est déclaré, comme il l'avait été 30 ans plus tôt en Algérie.
Crise en Nouvelle-Calédonie, Laurent Fabius annonce l'envoi de renforts pour assurer l'ordre.
Au mois de décembre 1986, l'Assemblée générale des Nations unies adopte en séance plénière la résolution 4141 qui réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. Fin de citation. Mais la France, pays des droits de l'homme et des Lumières, continue à réprimer ceux qui, sur place, osent également rappeler ce droit. Le 22 avril 1988, des Kanaks capturent 24 gendarmes et les retiennent prisonniers. Le 5 mai, le GIGN, encore lui, donne l'assaut et tue 19 indépendantistes. C'est après cet affreux massacre colonial que sont signés en juin 1988, sous l'égide du premier ministre socialiste de l'époque, Michel Rocard, les accords de Matignon, qui marquent le début d'un long processus prévoyant notamment que 3 référendums sur l'indépendance de la Kanakie seront organisés si le non à l'indépendance l'emporte lors des 2 premières consultations. Le premier de ces 3 référendums est organisé en 2018. Le non l'emporte, sans surprise, puisque les Kanaks, chez qui se trouve le plus grand nombre d'électeurs favorables à l'indépendance, sont désormais minoritaires en Kanakie, où les inégalités n'en finissent plus de se creuser entre colons et colonisés. Le deuxième référendum a lieu en 2020 et donne le même résultat. La troisième consultation est organisée en décembre 2021. Les Kanaks ont demandé le report de cet ultime référendum en raison de l'épidémie de Covid-19, mais le pouvoir macroniste a refusé d'accéder à cette demande. Les indépendantistes décident donc de ne pas participer à un scrutin marqué par un taux d'abstention de plus de 56% et le non, très logiquement, l'emporte à plus de 90%.
Dans le fief des loyalistes à Nouméa, le très attendu résultat de ce troisième référendum d'autodétermination est accueilli avec fierté.
On a gagné. Ça fait 20 ans qu'on attend de sortir de cet accord. Les Calédoniens ont décidé par trois fois de rester français. Cette victoire, elle est belle. C'est la fin de l'accord Nouméa. C'est le début de quelque chose de nouveau dans la République française. Je suis fier que les Calédoniens soient mobilisés.
Ce passage en force plonge les Kanaks dans une immense colère que vont encore aggraver les provocations répétées du pouvoir macroniste dont les indépendantistes ne peuvent que constater qu'il a choisi son camp. Ainsi, la chef de file du parti loyaliste néo-calédonien, reçue comme telle à Matignon au mois d'octobre 2022, n'est autre que Sonia Backès, qui est alors secrétaire d'État à la citoyenneté du gouvernement d'Elisabeth Borne, au sein duquel tout le monde s'accommode pour le mieux de cet ahurissant mélange des genres et des casquettes. D'autre part, le dossier calédonien, traditionnellement géré par le Premier ministre depuis la signature des accords de Matignon, lui est retiré pour être confié au ministre macroniste de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le fameux diplomate dont l'un des plus héroïques exploits a été de lancer des gendarmes équipés d'armes de guerre contre des manifestants écologistes. Et bien sûr, Emmanuel Macron, fidèle à lui-même, se fait un devoir d'en rajouter dans la forfanterie en déclarant lors d'une visite à Nouméa au mois de juillet 2023, et alors même qu'il sait pertinemment que le référendum de décembre 2021 auquel les indépendantistes ont refusé de participer était une mascarade, que la Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française. Mais la goutte d'eau qui va véritablement faire déborder la colère des Kanaks sera commencée la réforme du corps électoral, accordant le droit de vote aux personnes résidant sur l'île depuis 10 ans, qui vont mathématiquement venir grossir encore les rangs de l'électorat anti-indépendantiste. Cette réforme était bien évidemment soutenue par le camp loyaliste, dont plusieurs milliers de partisans s'étaient par exemple rassemblés au mois de mars dernier à Nouméa, devant le Parlement local, pour exiger son adoption rapide. Ce jour-là, l'ex-secrétaire d'État macroniste Sonia Backès, encore elle, s'était lancée dans une virulente diatribe contre les indépendantistes et avait proféré ce qui ressemblait d'assez près à des menaces, en déclarant notamment, je cite, « On va se battre, le bordel c'est nous qui le mettrons si on essaie de nous marcher dessus ». Fin de citation. Mais bien sûr, personne, dans la presse et les médias dominants, n'a eu le mauvais goût de la traiter d'émeutière. Ce qualificatif est réservé aux Kanaks qui se sont massivement révoltés après l'adoption de la réforme, grâce aux voix notamment du Rassemblement National, qui a encore une fois servi de force d'appoint aux macronistes.
Pour nous, nous considérons que c'est une recolonisation du pays et du peuple kanak. Le droit du peuple kanak est d'être souverain dans son propre pays, mais aussi la reconnaissance des victimes de l'histoire.
Ce soulèvement est évidemment et éminemment politique, comme à chaque fois qu'un peuple colonisé se lève en masse contre ses oppresseurs. Mais le pouvoir macroniste n'a eu de cesse, depuis le début des émeutes provoquées par son jusqu'au boutisme, de nier ce caractère politique, en psalmodiant que les Kanaks étaient, je cite, « des mafieux », comme l'a soutenu Gérald Darmanin.
« La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT, qui est désormais loin, on le sait, du FLNKS, est un groupe mafieux qui veut manifestement instaurer la violence, comme ils l'ont fait dans l'usine du Sud. L'année dernière, la République ne tremblera pas. »
Mais aussi, comme l'a très calmement décrété Sonia Backès, et comme l'a ensuite répété le député macroniste de Nouvelle-Calédonie dans un hebdomadaire du très réactionnaire groupe Bolloré, des racistes anti-blancs. Relevons au passage, dans un moment marqué aussi par une sinistre actualité proche-orientale, et en gardant à l'esprit que chaque situation est particulière, un étonnant parallélisme des formes et des formules entre ces mots que les macronistes emploient donc pour discréditer les indépendantistes kanaks et ceux que les autorités israéliennes utilisent pour disqualifier les Palestiniens, systématiquement présentés eux aussi comme des criminels et comme des antisémites, c'est-à-dire comme des racistes. Ces accusations ont cet avantage qu'elles autorisent et justifient par avance les répressions les plus brutales.
Drapeau mon pays, Kanaki, soyez fiers de porter. Donc on reçoit Julie du collectif Solidarité Kanaki.
Bonjour.
Et avec toi, on va commencer tout simplement par comprendre, essayer de comprendre comment les trois référendums qui étaient la base des accords de Nouméa ont-elles pu aboutir à un non à la décolonisation de la Kanaki.
En fait, il faut rappeler que les accords de Nouméa sont arrivés, comme on l'a entendu tout à l'heure, après tout un processus d'accord. Alors, juste pour les référendums eux-mêmes, en 83, c'est quand même quelque chose qui est historique dans l'ensemble des processus de décolonisation au niveau mondial, hein, que les peuples colonisés se sont exprimés eux-mêmes, à un moment donné, pour leur propre autodétermination. En 83, à Nainville-les-Roches, les dirigeants indépendantistes acceptent d'ouvrir le corps électoral aux victimes de l'histoire. C'est-à-dire, les victimes de l'histoire, ils considèrent que tous les descendants du bagne, tous ceux qui avaient été déportés, sont des victimes, ils n'ont pas choisi, en fait. Et donc, tous ces descendants, ils considèrent qu'ils sont aussi sur cette terre, et ils vivent avec eux, et donc, ils ouvrent, en fait, leur corps électoral pour pouvoir s'exprimer sur l'autodétermination, mais aussi au niveau du corps électoral local, à ces personnes-là, donc à construire un destin ensemble. Donc ça, en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'en fait, les Kanaks, déjà, ont fait un compromis. Ils ont déjà accepté d'autres personnes dans le corps électoral. En 86, on rappelle, hein, en 86, le territoire de Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, donc la Kanaky, est réinscrit sur la liste des pays à décoloniser selon la résolution 1514 des Nations Unies. Et donc, un territoire non autonome, ce n'est pas un département. Un territoire non autonome, c'est un territoire qui est distinct, qui est séparé de la France. Normalement, c'est le peuple colonial, au niveau juridique, c'est comme ça que c'est les termes qui sont employés, qui s'exprime pour sa propre autodétermination, qui doit s'exprimer pour sa propre autodétermination. Et au niveau, il y a aussi d'autres clauses, en fait, sur le territoire non autonome, c'est que les richesses du pays appartiennent au peuple qui est colonisé. L'exploitation, l'avenir de ces richesses doivent être soumises à l'accord du peuple, en fait, sur place. Donc en 86, la France est devenue donc une puissance administrante. Donc en tant que puissance administrante, elle a des comptes à rendre au niveau des Nations Unies pour mettre en place un processus de décolonisation avec l'accord des représentants du peuple qui est colonisé. Et donc en l'occurrence, c'était avec le FLNKS. Donc ça, c'est important à préciser, sachant que dans les années où justement ça a été très tendu jusqu'en 88, il y a eu l'enjeu du corps électoral a été central. Et c'est aussi pour ça que Éloi Machoureau s'est fait assassiner par le GIGN avec Marcel Nanouro en début 85, le 12 janvier 85. Le 18 novembre 84, Éloi Machoureau, on connaît l'image où il arrive au niveau d'une urne avec une hache, symboliquement, pour s'opposer à une élection locale. Et donc, c'était justement pour s'opposer aussi, à cette époque-là, à une volonté d'ouverture du corps électoral avec différents statuts. Il y a eu le statut Lemoine, statut Pisani, Ponce, etc. Mais voilà, je ne vais pas revenir dans les détails là-dessus, mais c'est juste pour prendre en compte que c'est hyper important, en fait, la question du corps électoral. C'est souvent technique, on se perd souvent dans les chiffres, etc., pour bien comprendre. Mais en fait, c'est tout à fait clair. C'est le peuple qui est colonisé, qui doit s'exprimer pour sa propre autodétermination et pour l'avenir aussi dans les institutions locales, etc. En 88, au moment de l'accord de Matignon, après qui a été complété par l'accord Oudinot, on dit Matignon-Oudinot, parce que l'accord Oudinot, ça a permis de rajouter dans le processus de décolonisation tout ce qui a été sur le rééquilibrage par rapport à l'accès à l'emploi, par rapport au transfert des compétences, etc. Et donc, en 98, à l'accord de Nouméa, les indépendantistes se mettent d'accord avec le pouvoir colonial. Mais du coup, l'accord de Nouméa, c'est un accord tripartite. Normalement, c'est des accords de décolonisation, c'est entre le pouvoir colonial
et
le peuple colonisé. Et souvent, ça se fait après, en fait. On rappelle que, du coup, c'est tripartite. Et il y a la droite loyaliste qui est aussi signataire des accords de Nouméa. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu deux contre un dans ces accords. Mais ils se sont mis d'accord, ils ont arraché, les indépendantistes ont imposé et arraché le gel du corps électoral. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans un processus d'autodétermination, ceux qui peuvent voter sur place, ce sont les premiers concernés. Et ils ne veulent pas ouvrir pour ne pas être noyés par les vagues de migration, de métropolitains, etc., dans les votes, et donc d'être minorisés, puisqu'il y a toujours eu une volonté de minoriser. On rappelle la lettre de Mesmer en 72, hein, qui était Premier ministre à l'époque, ou qui disait clairement l'objectif, c'est une colonie de peuplement pour pouvoir être majoritaire par rapport au peuple kanak. Voilà. Donc ça, il faut bien se garder en tête. Et dans les accords de Nouméa en 98, il y a aussi le fait d'ouvrir encore ce corps électoral à... Donc d'accepter, en plus de ceux qui sont victimes de l'histoire, qui est Nainville-les-Roches, d'accepter aussi tous ceux qui ont été résidents en continu de 88 à 98, de 10 ans. Voilà. Et donc le corps électoral provincial, je dis provincial parce qu'en fait, il y a le corps électoral aussi référendaire qui permet de s'exprimer à la consultation du référendum d'autodétermination. Mais là, on est sur les provinciales. Et donc, c'était c'est gelé. Ça a été constitutionnalisé en 2007. Et du coup, normalement, personne ne pourrait voter à part ceux qui sont déjà là en 98, depuis 88, au minimum. Voilà. Toujours est-il qu'il y a les trois consultations qui doivent se passer, les trois consultations d'autodétermination, qui auraient pu se passer en 2014, mais qui ont été reportées, etc. Finalement, première consultation en 2018, sauf qu'au premier référendum, une partie des indépendantistes, je pense au Parti travailliste ou même à l'USTKE, n'ont pas appelé. C'est pas qu'ils ont boycotté, c'est qu'ils n'ont pas appelé à voter parce qu'ils remettaient en question le fait qu'il manquait sur les listes plusieurs milliers de personnes, kanak.
Toi, ce que tu es en train de dire, c'est que dès ce premier référendum qui donc dit non à la décolonisation, en fait, il y avait un manque de kanak inscrit sur les listes.
Exactement. Donc déjà, ça faisait partie des mobilisations et des prises de parole sur place des indépendantistes pour le rajout sur les listes de certains kanak qui n'étaient pas inscrits. Il y a eu un gros travail entre le premier et le deuxième référendum de la part des indépendantistes pour recenser l'ensemble des personnes, pour faire correspondre au niveau des listes et que voilà, ces personnes-là puissent être inscrites et tout. Au deuxième référendum, il y a une poussée vraiment importante des voix indépendantistes pour le oui à la pleine souveraineté. Voilà. Donc le deuxième référendum, il se passe en 2020. À ce moment-là, en fait, la pleine souveraineté pour le peuple kanak et se joue à 9000 voix seulement près. On est vraiment à deux doigts de l'indépendance. Voilà. L'État français tremble, et donc il y a une volonté de stopper cet élan, et il y a vraiment une peur que le troisième référendum, il y ait un oui à l'indépendance, quoi. Entre-temps, entre le deuxième et le troisième référendum, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'usine Vale. L'usine à Goro, la grosse usine de nickel au sud du pays, donc qui était tenue par une multinationale, qui vendait en fait l'usine. Et donc, il y a eu une énorme mobilisation dans l'ensemble du pays de la part du peuple kanak pour revendiquer la souveraineté sur les richesses du pays. Donc là, il y a une grosse mobilisation dans l'ensemble de la Grande Terre, dans l'ensemble de la Kanakie. Il y a des barrages qui sont faits, etc. Il y a déjà... la droite sur place coloniale qui sort des carabines, etc., sur des barrages. On a déjà vu ça en 2020. Mobilisation énorme. Et à ce moment-là, les dirigeants indépendantistes, au printemps 2021, un groupe de dirigeants indépendantistes qui sont mobilisés aussi sur cette lutte, se font arrêter et se font mettre en examen pour association de malfaiteurs. Donc, ça, pareil, on est entre les deux référendums, il y a une pression, une répression de l'État français. Donc on est dans un contexte quand même où c'est très tendu et où l'État français a peur qu'il y ait l'indépendance, quoi. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Sur cette lutte-là, on sait que la mobilisation a dépassé un peu les contrôles aussi des organisations, déjà, à cette époque-là. Finalement, on sort de cette mobilisation par un accord et il y a un rachat de premier ressources du multinational avec sur place, avec une part qui est au tribut local, une part à la province sud. Enfin bon, voilà, c'est réparti, mais ça n'empêche qu'on sort de là avec un accord qui, bon voilà, finalement c'est une multinationale qui reprend aussi. Toujours est-il que il y a des élections provinciales qui se déroulent l'été 2021 On est toujours entre les deux référendums. 2021, il y a les élections provinciales. Et là, c'est les indépendantistes qui récupèrent donc des élections provinciales qui permettent d'élire le congrès, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le congrès de Nouvelle-Calédonie. Donc on arrive à la tête avec Louis Mapou, qui est kanak, qui est indépendantiste, qui a été beaucoup impliqué dans la lutte au niveau de Valais, qui arrive et qui est l'actuel président du congrès. Voilà. Donc là, peur aussi de l'État, volonté de reprise du pouvoir au niveau du congrès local. On est en plein Covid, comme disait le journaliste de Blast, et on s'attend à 2018-2020, on s'attend à 2022 comme troisième consultation. Et là, en plein Covid, je crois que c'était en septembre, il y a eu l'annonce de l'organisation du troisième référendum en plein décembre, 12 décembre 2021, tac, plein Covid. En plus, c'était au moment où le Covid entrait pleinement en Nouvelle-Calédonie, c'était en décalé par rapport au reste du monde, parce qu'il y avait vraiment une volonté de préserver, en fait, au niveau de l'île, toute contamination. Hein, au niveau colonial, ça a déjà été vécu par le passé, même pour le.
C'est ce que disait d'ailleurs le journaliste.
Kanak, voilà. On est passé quand même de 1853 à 1920 à de vivants seulement il restait 10% de la population, 10 à 20% de la population kanak. On est quand même
Oui, parce que c'est des populations qui n'ont pas du tout l'habitude d'être en relation avec certains microbes, virus,
voilà, mais
etc.
Comme d'autres, dans d'autres territoires, exactement. Hein, je veux dire, dans les Amériques, ça a été
Nord,
la même chose.
Etc.
Bon voilà. Donc là, l'entrée du Covid est entrée en décalé par rapport au reste du monde. En 2021, il y a beaucoup de militants qui sont touchés. Les Kanaks sont les premiers à mourir du Covid. On est dans un contexte qui est lourd, qui est dur. Et en même temps, dans la coutume locale, les périodes de deuil, c'est des périodes à respecter, qui peuvent durer. Et c'est des périodes où il n'y a pas normalement non plus de mobilisation politique, etc. Il y a du respect à avoir dans les coutumes locales. Donc il y a une mobilisation de l'ensemble des courants indépendantistes, aussi des coutumiers, sur une demande du report en fait de cette date. C'est pas possible, là c'était confinement, c'est pas possible. Non seulement ils peuvent pas faire campagne, mais il y a la question du respect du respect du deuil. Bon, Macron n'écoute pas, continue unilatéralement à imposer, il envoie 12 escadrons militaires sur place. Nous, ici, il y a eu une mobilisation aussi, il y a eu des tribunes, il y a une tribune qui a été signée par 200 personnalités demandant le report, tout le monde demandait le report, enfin c'était vraiment... Unilatéralement, il impose quand même le
référendum.
Le référendum. Dans des conditions qui n'étaient pas réunies pour
que ça se passe
dans
bien.
Les textes, ouais. Au niveau des textes, au niveau des textes des Nations Unies, normalement pour le respect des conditions d'autodétermination, c'est dans la pleine volonté et le respect authentique de la volonté du peuple, etc. Donc là, on n'est pas du tout, c'est la violation du droit international complètement, quoi. Donc le vote se passe et les indépendantistes n'appellent pas au boycott en tant que tel, mais ne participent pas. Donc on a une abstention qui est énorme. Et donc pour eux, la troisième consultation, ils ne la reconnaissent pas. Depuis le troisième référendum, ils considèrent que ben non, en fait, c'est un référendum qui a été volé. Le peuple colonisé, le peuple qui doit s'exprimer pour sa propre autodétermination ne s'est pas exprimé. Donc cette troisième consultation, elle n'est pas valable en tant que telle, quoi. Et puis, l'État français continue à dire que ben non, et puis la droite loyaliste, bien sûr, sur place, à dire que non, c'est...
C'est recevable.
Voilà, c'est recevable et que... Voilà.
On va faire une petite pause avant de revenir un peu justement sur tout ce qui s'est passé depuis ce troisième référendum. Donc là, on a fait un petit peu le tour de ces trois référendums qui ont... porter le nom à l'indépendance, mais on a vu dans quelles conditions. Pour le gouvernement français, il n'y a pas d'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie et ils veulent sortir, tout simplement, de l'accord de Nouméa qui stipule qu'il faut que toutes les parties soient d'accord.
Exactement.
Et acceptent, ce qui est loin d'être le cas.
Il a appelé à plusieurs reprises à des trilatérales, c'est-à-dire à se réunir avec les trois parties, mais les indépendantistes ont toujours refusé. Donc ça a été des bilatérales. Et surtout, les indépendantistes, eux, ils veulent porter une plainte à la Cour internationale de justice vis-à-vis des Nations Unies pour qu'il y ait au moins un avis consultatif sur la manière dont s'est passée la troisième consultation qui a été un véritable braquage à main armée avec l'armée sur place, etc. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que Les indépendantistes préparent du coup cette plainte. Et comme ils ne sont pas encore reconnus au niveau des Nations Unies comme mouvement de libération nationale, ils ne peuvent pas déposer comme ça la plainte. Il faut passer par un pays allié, ami, qui accepte de déposer à l'Assemblée générale des Nations Unies cette volonté de plainte, qui, de l'Assemblée générale, décide si ça passe ensuite à la Cour internationale de justice. Donc, ils avaient, donc comme ils ont un réseau des pays océaniens, le fer de lance, où le FLNKS est signataire au sein de ces pays-là, ils avaient le Vanuatu qui était prêt normalement à déposer. Et puis, ils se sont fait doubler par la France, qui, était, au niveau des pays océaniens, a bien arrosé les pays, qui sont des petits pays qui n'ont pas beaucoup de
moyens,
de revenus, etc. Et donc, ça a permis de bloquer, en fait, de bloquer le dépôt de cette plainte. Mais le travail est toujours en cours de la part des indépendantistes pour pouvoir enfin déposer la plainte.
Mais voilà. Je voulais juste revenir quand même, parce qu'on a vu ces derniers temps, pas seulement ces dernières années, mais bien, bien avant, mais là, ça s'accélère énormément, que cette question du droit. Parce que y a des accords là de Nouméa, des textes qui ont été signés, un processus qui a été mis en place, et on se rend compte que les États, s'assoient dessus, tout simplement. À partir du moment où ils considèrent que c'est pas dans leurs intérêts, ils s'assoient sur des accords signés, et ça, c'est quand même, et même bon, on le voit que ce soit par rapport à la Palestine ou par rapport à d'autres pays, où l'ensemble des droits militaires, etc., sont mais piétinés allègrement. C'est quand même très, très inquiétant. Parce que d'abord, bon, le droit, on le sait, c'est pas forcément toujours en notre faveur, mais ça permet de figer à des moments des règles. Quand ça les arrange plus, ils s'assoient dessus et ils les violent carrément. Et ça veut dire que là, on est entré quand même dans des phases de barbarie.
Complètement. Et puis même par rapport à l'accord de Nouméa, il n'y a pas que le fait par rapport au troisième référendum où il y a une violation de l'accord de Nouméa au-delà de la violation du droit international. Hein. En fait, dans l'accord de Nouméa, il y a aussi des clauses. C'est un plancher, en fait, pour eux, les indépendantistes, à ne pas aller en dessous.
Ouais, c'est ça.
Et donc, le plancher, c'est aussi tout ce qui avait été mis dans cet accord sur le rééquilibrage par rapport à l'emploi local. Aujourd'hui, on a une discrimination à l'emploi vis-à-vis des Kanaks qui est énorme. Le nombre de directeurs d'école, ça se compte même pas sur les doigts des deux mains. Enfin, le nombre de médecins, il y en a très très peu. Enfin, voilà, il y a vraiment une discrimination à l'emploi. Par contre, il y a des métropolitains qui sont privilégiés dans ces emplois-là, dans ces embauches-là. Plus, ils ont logement, tout compris, etc. C'est vraiment dur. Il faut savoir aussi que le SMIC sur place, le niveau de vie, il est beaucoup plus élevé qu'à Paris. Beaucoup plus élevé qu'en France, mais le SMIC il est plus bas. Et le SMIC dans le secteur privé, la plupart ce sont des Kanaks qui travaillent. Voilà. Autre chose, donc ça c'est au niveau du rééquilibrage, au niveau du transfert des compétences, des compétences au niveau institutionnel, etc. Il restait les compétences régaliennes et tout. Et même sur le transfert des compétences, c'est pas abouti. Donc en fait, en bilan en fait des accords de Nouméa. Au moment du troisième référendum, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées par la France non plus, quoi. Et ça fait partie des revendications des indépendantistes aussi sur le non à la discrimination à l'emploi. Voilà, c'est par exemple dans les concours, certains, je vois par exemple, on peut citer l'exemple de Darwin Wamerengo qui travaillait en tant qu'administratif au tribunal de Nouméa, qui était en CDD, qui passe un concours pour une titularisation. Bah, le concours, en fait, il y a aussi la question de la nationalisation des concours. Où en fait, il passe son concours, il est envoyé à Strasbourg. Il a sa famille qui est en Kanaky. Il y a aussi cette revendication de localiser en fait les concours et voilà.
Yeah.
on va passer un petit peu à ce qui s'est passé plus récemment, ouais. Hein, ces derniers mois. Donc on a vu qu'il y avait eu un réveil ces derniers temps, justement concernant le corps électoral qui voilà. peut voter et remettant en question évidemment ce troisième référendum contre l'indépendance de la Kanaky. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un petit peu les nouvelles forces en présence ouais. Et puis les formes de lutte que ça a pris et puis évidemment la répression qui s'est abattue sur ce mouvement légitime.
Alors d'abord une précision, le projet d'ouverture du corps électoral, c'est pas par rapport au référendum, c'est pas par rapport au corps électoral référendaire, c'est par rapport au provincial.
D'accord.
Et donc, depuis le troisième référendum, Macron essaye de passer en force et de sortir de l'accord de Nouméa et de dire, voilà, maintenant c'est la France, donc maintenant les gens qui sont là juste depuis 10 ans pourront voter au provincial. Et donc, c'est une volonté d'ouvrir le corps électoral. Les indépendantistes ne sont pas contre d'ouvrir aux natifs. Voilà. Et par contre, là, c'est en comptant les natifs et l'ouverture à juste des gens qui sont là depuis que 10 ans, donc même après les accords de Nouméa, on a 25 000 nouveaux, ça serait l'équivalent de 25 000 électeurs d'un coup
en plus.
Qui arriveraient, sans compter ceux qui arriveraient plus tard. Donc c'est vraiment minoriser le peuple kanak. Si en proportion, c'est comme si on avait une ouverture en France de 7 millions d'électeurs d'un coup. Voilà. Ce qui est énorme et ce qui va changer le paysage politique sur place. L'idée, c'est de reprendre la tête du gouvernement local et vraiment, ça aura une conséquence aussi au niveau de l'emploi, au niveau de plein de choses localement. Donc par rapport à ça, par rapport à ce document qui a été proposé, les indépendantistes ont dit non, mais c'est pas possible, on va en dessous du plancher de l'accord de Nouméa. Et donc, malgré le forcing de l'État français, ils ont créé la cellule de coordination des actions de terrain dès novembre dernier, où il y a l'ensemble des courants indépendantistes. Il y a le FLNKS à l'intérieur, les partis du FLNKS qui sont à l'intérieur, en tout cas de la base, à part un ou deux partis qui ne sont pas en tant que tels dans la CCAT. Mais en tout cas, c'est une réunion de militants indépendantistes et de courants, de partis indépendantistes. Aussi, au-delà, ça va avec des syndicats aussi. L'USTKE ne fait pas partie du FLNKS, mais est dans la CCAT.
D'accord.
Voilà. Donc, ce qui est créé, c'est une unité qui va au-delà de l'unité du FLNKS. Donc, c'est quand même assez puissant, comme, et surtout avec une mobilisation par la base aussi, et locale dans les différentes villes, etc. Et donc, du coup, les mobilisations, elles ont commencé dès novembre, il y a eu de l'information, et comme la CCAT le dit, il y a plusieurs phases dans leur projet de mobilisation. Donc, les premières phases, c'est la sensibilisation, de l'information. Après, il y a eu des mobilisations locales. Et puis après, on arrive en janvier, où il y a le dépôt des deux réformes, report des élections provinciales. Bien sûr, on n'a pas encore dégelé le corps électoral, donc on va les reporter. Comme ça, on a le temps d'ouvrir le corps électoral, de faire rentrer 25 000 électeurs. Mmh. Et puis comme ça, après, on reprend le pouvoir. Et voilà. Donc première loi, c'était la loi organique qui est déposée dès janvier. Et puis après, il y a le projet de loi en même temps sur l'ouverture du corps électoral. En janvier, les mobilisations commencent à être fortes et aussi sur Nouméa, puisqu'il commence à y avoir au niveau du congrès local la discussion au niveau du report des élections, etc. En février, il commence à y avoir de la répression. La manifestation du 21 février, qui était assez énorme sur Nouméa, ils se sont fait empêcher de circuler, ils se sont fait envoyer sur une autre voie, et là, il y avait des gendarmes mobiles. J'en parle parce que là, il y a eu de la répression. Deux camarades ont été arrêtés. Pour blessures sur gendarmes mobiles, blessures légères. Mais eux, ils prennent 2 ans ferme, ce qui est énorme en termes de condamnation. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, les deux camarades. Ils étaient soi-disant au camp Est, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas où ils sont. Donc, ils ont été au camp Est, mais là, les familles les cherchent, quoi. En avril, la loi passe au Sénat, le 2 avril. Le 13 avril, il y a une énorme mobilisation dans toute la Kanaky, dans les îles, partout. Il y a plus de 80 000 personnes qui ont manifesté en Kanaky. Donc, il n'y a pas que des Kanaks. Les Kanaks sont 120 000, en gros. Donc, il y a aussi d'autres communautés qui sont sur place et qui se sont mobilisées avec les Kanaks contre ce projet de loi. Avant le 14 mai, du 4 au 5 mai, en fait, il y a l'anniversaire de la mort de Jean-Marie Tjibaou et en même temps, il y a l'anniversaire de la grotte d'Ouvert. Et de ce week-end-là, du 4 au 5 mai jusqu'au 12 mai, il y a une mobilisation en continu tous les jours dans toutes les villes, etc. En Kanaky, avec la CCAT, il y a une mobilisation continue.
Donc là, tout se passe pacifiquement. Du côté kanak, il n'y a pas eu de... Enfin, je le dis parce que ça, ils ont été accusés...
De quoi ? De violence ?
De violence, etc. Mmh. Alors qu'il n'y a jamais rien eu. Et par contre, il faut bien, du côté de l'État colonial, il faut bien provoquer, en fait. Il faut bien mettre une étincelle. Donc, on rappelle, le vote à l'Assemblée nationale a eu lieu le 14 mai. Ça a commencé à péter déjà le 13 mai. Pourquoi ? Le 12 mai, des jeunes kanaks se font arrêter pour port de drapeau kanak. Ce qui est quand même... c'est du jamais vu.
Incroyable.
En kanaki. Le drapeau kanak, il est partout en kanaki. Première provocation, le 13 mai, ça a été une grève de deux fédérations de l'USTKE qui a été suivie à plus de 90%. Donc la fédération transport terrestre, aérien et hôtellerie, donc qui ont pu bloquer notamment l'aéroport, enfin pour tout ce qui était commercial. Et la fédération Port et Dock qui a bloqué aussi pas mal, qui a pu ralentir vraiment au niveau du port. Ce jour-là, du coup, il y a quand même une démonstration de force aussi de simplement deux fédérations qui bloquent l'activité. La police, enfin des flics, partent au quartier de Montravel, quartier le plus populaire de Nouméa, un des quartiers les plus populaires, et tirent au flashball sur des jeunes kanaks qui portaient le drapeau kanak. Donc là, c'est l'étincelle, en fait, qui a fait qu'à un moment donné, la jeunesse kanak a dit « là, c'est plus possible ». Là, on ne va pas se faire écraser comme ça, ce n'est pas possible. Et il y a eu une mobilisation par rapport au vote du dégel du corps électoral et de la répression qui était en train de se mettre en place. Et cette violence-là, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Là, même si Macron dit que, là, quand il a annoncé à sa venue qu'il y avait un retour au calme, etc., jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes d'agressions policières, militaires, qu'il y a des personnes qui reçoivent des grenades de désencerclement sur leur toit. Enfin voilà, c'est hyper dur. Et surtout, il y a les milices locales racistes et coloniales qui ont pu agir en toute impunité depuis le début. Donc, soi-disant pour...
Quand tu parles de milices, c'est quoi ? C'est des loyalistes, des gens qui sont contre l'indépendance ?
C'est l'extrême droite, locale, blanche. Ouais. Nouméa est très ségrégué. Le sud, c'est plutôt des quartiers blancs. Et voilà, il y a des quartiers plutôt populaires, kanak et océaniens. Mais en fait, ce qui a été dit dans les médias, c'est soi-disant une protection de certains quartiers armés, avec des armes de guerre.
Carrément.
Voilà. Mais par contre, il y avait quand même des pick-up qui circulaient dans Nouméa et qui allaient en direction des quartiers populaires pour aller faire de la chasse à l'homme.
Ouais, et qui n'étaient absolument pas arrêtés par les forces de l'ordre.
Et pire que ça,
accompagnés.
Dont les responsables de ces milices-là ont été vus, ça a été des élus locaux. Donc, par exemple, Philippe Blaise, qui a été vu sur un des barrages de ces milices, armé en gilet pare-balles, en disant « nos mecs, mes mecs ». Enfin, voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'on a sur place des élus locaux qui poussent à cette violence-là, à une haine et à, finalement, des assassinats. Parce que le nombre de blessés pare-balles, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, la totalité. Mais c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. L'hôpital de Nouméa, le Midipol, il y a des services qui sont militarisés. Donc, d'avoir les chiffres exacts, c'est compliqué. Le nombre de morts officiels, là, ça continue. Hein. Il y a eu encore 3 morts, là, ces derniers jours. Donc, le nombre de morts officiels, on en est à 9 morts côté kanak. Mais il faut rappeler qu'en fait, même les morts, les deux morts de flics, là, c'est pas des kanaks qui les ont tués. Et les barrages qui sont tenus par les kanaks pour protéger leur quartier, c'est aussi pour désarmer, c'est aussi pour se protéger d'assassinats, d'agressions, etc.
Alors, quand tu disais que des milices armées puissent circuler comme ça en toute impunité, c'est une chose absolument inadmissible, mais d'autant plus inadmissible qu'elles sont tolérées et que ces gens-là, encore aujourd'hui, ne sont pas arrêtés ni jugés.
Il y a deux personnes au début qui ont été arrêtées. Il y a une personne qui a été écrouée pour deux assassinats. Une personne qui a été écrouée, voilà, on ne sait pas où elle est là actuellement. En tout cas, elle n'est pas au camp Est, hein, protégée. Et l'autre personne, elle dort avec bracelet électronique. Et après, jusqu'à maintenant, il y a eu des plaintes qui ont été déposées sur les assassinats. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il y a eu enquête ouverte ou pas. Et c'est d'une injustice et d'une violence
C'est plus que ça. Ça veut dire, c'est difficile de trouver les mots, mais accepter que des gens puissent prendre des armes et faire justice eux-mêmes, puisque bon, c'est comme ça, en toute impunité, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France tolère que des anti-indépendantistes puissent faire la loi et l'imposer.
Sur place, le Haussaire sur place, le procureur, les élus locaux. Enfin voilà, c'est Sonia Baquet, Metzdorf, enfin c'est toute l'équipe là.
Tu décrivais un petit peu la tension qu'il peut y avoir dans les quartiers pauvres, en Kanaky. Tu parlais des grenades de désencerclement, des gardes à vue, mais aussi des portes défoncées.
Complètement, il y a eu des nombreuses perquisitions avec des violences vraiment terribles et où il y avait la famille, les enfants. Enfin voilà, c'était très dur quoi. Là, dans les derniers jours, il y a eu quand même 3 morts en plus. Il y a le papa d'un des jeunes qui avait été assassiné, qui vient de décéder à cause de asphyxie par gaz lacrymogène. Il y a une autre personne, pareil, asphyxie, gaz lacrymogène.
Alors, je voulais juste revenir un peu sur cette période où il y a eu...
Il y a plus de 4000 militaires aussi sur place. Qui ont été envoyés.
Alors, c'est énorme, c'est énorme.
La Légion étrangère occupe le port de Nouméa.
Il y a des blindés qui circulent. Bon, on est quasiment en état de guerre sur place.
Ah, mais complètement, c'est une occupation. C'est une occupation coloniale.
Et il y a eu 93 emprisonnements. Moi, avec 1260 gardes à vue. Et puis des déferments. Enfin bon, il y a quand même une énorme répression.
Ce sont les chiffres officiels du procureur.
En plus. Donc ça veut dire, c'est comme disais par rapport
Par exemple, les nombres de morts, il y en a beaucoup plus. Ça, on ne le dit pas, mais enfin, c'est pas, il n'y a pas les chiffres exacts, il n'y a pas les enquêtes, mais il y en a plus.
Puis en plus, il y a toujours des gens aussi qui refusent d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Donc du coup, ils restent chez eux pour se soigner.
Les blessés, il y en a beaucoup, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. Comme par hasard, ce dernier mois, les morts naturelles ont augmenté en Nouvelle-Calédonie. Donc bon, il y a vraiment toute une vérité, une lumière à faire sur tout ce qui se passe, les exactions qui se passent.
Alors, nous, on a eu l'impression qu'au moment où il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale en France, comme un espèce un peu d'apaisement qui a été, entre autres, rompu, mais ça, tu vas nous le dire, rompu par les arrestations, les 11 arrestations de responsables du CCAT.
Oui, mais en fait, cette accalmie qu'on parlait, effectivement, les écoles devaient reprendre, etc. Bon, sachant qu'il y avait toujours des gens qui subissaient de la répression policière et des menaces de milices, ça s'est jamais arrêté. Et en fait, à ce moment-là...
C'est Macron qui vient en Nouvelle-Calédonie, j'imagine qu'il a fait quelques petites promesses.
et met de l'huile sur le feu en arrêtant, là, suite à la dissolution, 11 responsables kanaks qui se rendaient au siège de l'Union calédonienne pour une conférence de presse. Donc, 11 personnes ont été arrêtées. Il y a eu des transferts ici, ils sont tous mis en examen. Les chefs d'accusation, ils sont énormes. C'est de l'ordre de la grande criminalité, avec volonté de tuer, etc. Mais ce qui est important de souligner aussi, c'est que les moyens qui ont été déployés vis-à-vis d'eux dépassent les chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a la gendarmerie nationale, etc., le GIGN et tout, la direction centrale de la police judiciaire, mais il y a aussi la sous-direction antiterroriste, quoi. Alors qu'il n'y a pas dans les chefs d'accusation, il n'y a pas le truc antiterroriste.
Oui, il n'y a pas une seule... Alors, je voulais juste revenir sur le fait que quand Macron est arrivé, il y a eu quand même, les barrages ont été levés. C'est ça qu'à un moment, enfin en tous les cas, voilà, les barrages ont été levés. Il y avait une espèce d'accalmie, une possibilité se remettre à discuter, à revoir un peu ces histoires d'accord, mais d'une manière plus apaisée. Et puis finalement, le gouvernement français arrête ces 11 responsables CCAT et à nouveau déterre la hache de guerre, évidemment. Et les barrages reprennent. Donc c'est toujours intéressant de voir...
À certains endroits, les barrages n'ont jamais cessé parce que les menaces des milices ont toujours été là.
Ouais.
Mais effectivement, ce n'était pas comme le 17 mai ou le 14 ou 15 mai. Effectivement, on n'en était pas là. Mais par contre, là on est à une... Bien sûr qu'il y a une réaction qui est énorme là au niveau du peuple kanak.
C'est une provocation.
À un moment donné, incroyable. C'est une provocation qui est énorme. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que dans les audiences, à aucun moment n'ont été évoqués les transferts. et que les avocats apprennent les transferts au moment du délibéré. Mmh, donc ça, dans les vices de procédure, enfin, il y a quand même dans la manière de faire, c'est vraiment complètement. Les avions, ils étaient déjà prêts, alors qu'il y a aussi des questions de délai au niveau légal, etc. Les avions étaient déjà prêts à partir. Et là, ils sont dispatchés dans différentes prisons, un par prison.
Je voulais juste revenir sur les qualifications hein, dont tu parlais, parce que ce dont on se rend compte, même déjà pour les premières arrestations précédentes, tu parlais d'associations de malfeiteurs.
Entre les deux tours, entre deuxième et troisième.
Et c'est des chefs d'inculpation un petit peu à chaque fois un peu flou. C'est toujours quelque chose à prendre un petit peu avec des pincettes et qu'il faudrait peut-être revoir d'ailleurs dans notre institution.
C'est grave que ça, hein, comme chef d'accusation, c'est à volonté de tuer.
Ah non, mais là, cette fois-ci, tu le disais, c'est pas du tout des incriminations politiques, hein, c'est bien une volonté de la part du gouvernement de faire passer ses responsables politiques hein, du mouvement, et on voit quelle force, quelle importance il a en Kanaky pour des criminels, des voyous, hein, même si je respecte pour les voyous.
Des commanditaires
voyous,
d'assassinat bon. Aussi. En fait, c'est leur faire... essayer de leur faire porter le chapeau de tout ce qui s'est passé depuis des semaines.
Dépolitiser complètement les actes Exactement. Qui ont pu avoir lieu et faire passer les révoltés pour des voleurs, des gens sans foi ni loi, etc. quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est une volonté de discréditer tout le mouvement indépendantiste kanak.
Ouais.
Et ce qui est bien clair, c'est que là, on est dans une situation coloniale. Ce sont des prisonniers politiques. L'ensemble des interpellés, depuis le début, ce sont aussi des prisonniers politiques.
Puisqu'ils ont été arrêtés lors de mouvements.
Droit commun, etc. C'est des prisonniers politiques. Mmh. Et oui, il y a cette volonté de discréditer, d'éloigner du mouvement de libération, de les éloigner ici. Mmh. Donc, parmi les 11, en fait, il y en a 2 qui sont assignés à résidence. Et il y en a 2 qui sont au camp Est pour le moment, et 7 qui ont été déportés en France.
D'accord, absolument. Voilà. Bah, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est donner leur nom déjà, et puis leur lieu d'incarcération, parce qu'on se rend compte qu'ils ont été complètement dispatchés.
Exactement.
Et notamment pas dans les plus grandes villes où il pourrait y avoir une solidarité plus organisée qui pourrait prendre le jour, même s'il y en a eu, tu vas nous le raconter.
Du coup, il y a Christian Théin, qui est vu un peu comme leader hein, sur place, qui est sur Mulhouse, à la prison de Mulhouse. Il y a Brenda Wanabo, IPC, qui était responsable au niveau de la communication de la CCAT, qui est à Dijon. Il y a Guillaume Vama, qui est à Bourges. Steve Ounay, qui est un des coordinateurs locaux de la CCAT à Caméré, qui est à Blois. Yewa Weatean qui est à Nevers et Dimitri Kenegay qui est à Villefranche-sur-Saône et enfin Frédéric Mouliava qui est à Riom. Voilà, donc c'est cette ville. La volonté de dispatcher, c'est aussi pour pas qu'ils communiquent entre eux.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Mais surtout sur des, on voit c'est des petites villes quoi. Hein.
Voilà, et puis là où ils ont pu avoir la place aussi, prévoir en avance hein, les transferts parce que c'était déjà prévu avant l'audience. Hein. Tout était déjà préparé quoi.
Alors, on a vu un dimanche dernier, il y a eu une petite manifestation qui voulait être devant le ministère de la Justice, mais il y avait la Fashion Week, oui. N'est-ce pas ? Donc du coup, on n'a pas pu s'approcher jusque devant le ministère de la Justice pour demander la libération de ces militants incarcérés. Et là, il y a eu un appel aussi pour pouvoir accueillir ces militants devant les prisons de la part donc des soutiens, il y a eu.
Le mouvement des jeunes Kanaks en France, qui maintenant s'appelle Mouvement des Kanaks en France, c'est plus élargi, qui a appelé des dimanches à des mobilisations pour le lundi, au moment de leur arrivée, partout devant les prisons où ils étaient. Donc ça a quand même été bien suivi, il y a eu plusieurs rassemblements dans différentes villes. Et là, il continue d'y avoir des appels. Samedi, à Tours, il y a une manifestation. Mais Tours n'est pas loin de Bourges et de Blois. Mmh. Et à Blois, il y aura une manifestation dans la prison dimanche. Mmh. À Mulhouse, il y aura une manifestation aussi. Voilà, en fait, les mobilisations continuent, ça s'organise. Et sur le site de Solidarité Kanaky, on essaye de mettre au maximum l'ensemble des informations. Hein. Le site, c'est solidaritékanaky.fr.
La police de Paris nous donne encore quelques minutes avant de nous dégager. Donc nous allons faire une déclaration. Il ne va pas falloir partir de façon dispersée parce que là-bas, il y a la BRAVEM. Et dans toutes les rues, il y a des quarts de CRS. On a commencé tout à l'heure le rassemblement en nous enlevant les drapeaux de Kanaky avec des contrôles d'identité. Donc, on ne va pas se faire tabasser pour rien. D'autres rendez-vous vont avoir lieu dans la semaine. On voulait dire qu'il était important d'être ici, devant le ministère de la Justice, qui est privatisé. Monsieur et Madame Macron doivent assister tout à l'heure à un défilé de mode. Voilà. C'était important pour nous de donner ce rendez-vous devant le ministère de la Justice, comme nous l'avons fait dans les années 80, quand le peuple kanak, quand les militants indépendantistes étaient en butte contre la répression. On se rappelle quand il y a eu les rafles à Canala, après l'affaire d'Ouvéa, quand les militants sont venus par avion cargo, avion militaire, pieds nus. Nous avions organisé une manifestation ici devant le ministère de la Justice. Il est important pour nous, citoyens de ce pays, de protester contre ces actions qu'on fait au nom du peuple français, en notre nom. Il est important pour nous, anticolonialistes, de dire que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie est insupportable. Cette dernière colonie de la France, on a condamné cette nuit 11 militants et militantes. Il y en a 7 actuellement qui sont dans un avion affrété par le gouvernement français. Un avion qui coûte plus de 500 000 euros pour les amener dans les geôles françaises. Ils vont faire 17 000 km pour être emprisonnés. À Clermont-Ferrand, à Bourges, à Blois, à Mulhouse, à Villefranche-sur-France. C'est insupportable. C'est à notre nom qu'ils font ça. Voilà, on dit que ce genre, c'est militants dans l'indépendance, c'est des militants pour la liberté. On dit que ce sont les malfaiteurs. Qui sont les malfaiteurs? Depuis des mois, le gang Macron, avec sa bande Paquès, Le Cornu, Darmanin, font tout pour casser ce processus qui était l'admiration du monde entier, qui était le processus unique de décolonisation pacifique. Ils ont tout fait pour casser ça. La CCAT a organisé de puissantes manifestations pacifiques à Nouméa au mois d'avril. Ils sont passés en force, comme ils sont passés en force pour casser les accords de Nouméa, comme ils sont passés en force pour maintenir le troisième référendum, où le score du non à l'indépendance atteint 97%. Même dans les pays les plus dictatoriaux, on n'a pas ce score. Aujourd'hui, ce sont nos amis, ce sont ces familles qui sont traitées de malfaiteurs. Il va falloir cette semaine élargir la solidarité. Nous avons demandé à nos amis à Blois, à Bourges, à Chambéry, à Villefranche-sur-Saône, à Mulhouse, d'essayer d'organiser un comité d'accueil avec les drapeaux de la Kanaky quand les prisonniers arriveront, comme nous l'avons fait il y a une trentaine d'années. Il faut se mobiliser parce que aujourd'hui, les bruits de bottes du Front National sont présentes, résonnent. Il faut se mobiliser parce que le combat du peuple kanak, c'est le combat pour notre liberté à nous, en France. Donc cette semaine, nous allons faire et lancer des réunions pour de façon le plus large possible se rassembler. Merci à tous ceux et toutes celles qui, au dernier moment, sont venus.
Rajouter pour tout le monde. On rappelle quand même que manifester, c'est un droit. On n'a pas été interdit. Il n'y a pas d'interdiction. On n'a pas reçu d'interdiction pour manifester ici. Et jusqu'à ce que l'extrême droite ne passe pas, on a le droit de manifester comme ça dans Paris. Voilà, donc là, c'est de la répression qu'on vit aujourd'hui. On rappelle aussi que là, ça n'a pas été dit, mais aujourd'hui, c'est les camarades qui sont arrêtés. C'est des camarades qui sont mobilisés depuis des mois et qui défendent le droit international. Parce que la Kanaky, c'est pas la France. C'est un territoire non autonome au niveau des résolutions de l'ONU. Et c'est pas la France. Et donc la mobilisation qu'il y a eu contre le dégel du corps électoral, contre la reconnaissance du troisième référendum, c'est pour le respect du droit international. Et aujourd'hui, ce sont eux qui se font arrêter. Il n'y a jamais eu de problème depuis des mois. Mais par contre, les milices sur place qui sont armées avec des armes de guerre, qui ont fait des chasses à l'homme, qui ont tiré sur la jeunesse kanak, parce que les morts aujourd'hui, c'est pas les kanaks qui les ont tués, c'est la milice aussi qui a tué 9 jeunes kanaks, de nombreux blessés, des centaines de blessés, des blessés par balles, plus de 1000 interpellations. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses familles kanaks qui ne savent pas où sont leurs proches qui sont arrêtés. Et c'est inadmissible. Donc il y a eu transfert des camarades de la CCAT, mais il y a aussi eu transfert de prisonniers kanak. Ils sont ici en France, dont on ne sait pas où ils sont et dans quelles conditions. Voilà, donc c'est complètement inadmissible. Ce sont des disparus aujourd'hui parce que les familles ne savent pas où ils sont. C'est inadmissible, c'est une justice coloniale. On dénonce aussi les 38 avocats du barreau de Nouméa qui ont fait une tribune de 5 pages en disant qu'ils ne font pas de la politique, mais ils font toute une démonstration pour reconnaître le troisième référendum à l'encontre du droit international et pour discriminer le mouvement indépendantiste kanak, discriminer les jeunes qui ont fait des barrages pour protéger leur quartier de ces milices qui sont armées, des milices racistes et coloniales, qui ont aussi des élus locaux qui ont été complètement proactifs et qui certains ont été vus avec des gilets pare-balles à pousser à la haine, à pousser à des actions de violence envers la jeunesse kanak et qui sont totalement responsables. Et tout cela, ils ne sont jamais inquiétés, ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. Voilà, c'est tout ça qu'on dénonce aujourd'hui, c'est inadmissible. Et on interpelle aussi toutes les mobilisations qu'il y a aujourd'hui contre l'extrême droite. Les mobilisations, se mobiliser contre l'extrême droite, c'est aussi se mobiliser contre le colonialisme, c'est aussi se mobiliser contre ces milices sur place en Kanaky. Et on a besoin qu'il y ait jonction dans ces mobilisations, et on lâchera pas jusqu'à la liberté pour la Kanaky.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Radio